Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente.
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Bonjour à tous, bienvenue dans Vos Animaux. Je vous souhaite un excellent week-end. Je pense d'ailleurs que cette journée démarre bien pour vous tous sous un très beau soleil un peu partout en France. Alors, au programme de Vos Animaux cette semaine, vous allez craquer pour ma première invitée. Elle s'appelle Pin-Up. C'est une petite boule de poils absolument mignonne, trop jolie. Elle a quelques semaines, elle est 9 semaines. Et cette petite boule de poils, c'est un setter Gordon. Nous en parlerons, nous vous présenterons cette race en compagnie de son éleveuse Marie-Laurence Hardy. Et puis surtout, nous sommes là pour vous donner des conseils. Si vous souhaitez faire l'acquisition d'un chiot ou si vous venez d'acquérir un chiot, comment l'installer au mieux au sein de votre maison? Que faut-il prévoir pour bien accueillir son chiot? Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Je vous rappelle le numéro du standard, mais je sais que vous le connaissez par cœur, 0826 300 300. Dans notre séquence à l'état sauvage, nous vous parlerons des hirondelles. Leur rassemblement sur les fils électriques ne vous aura certainement pas échappé. Elles sont prêtes pour le grand départ avant l'arrivée des premiers froids. Alors notre séquence à l'état sauvage leur sera consacrée puisque cet oiseau devient, hélas, de plus en plus rare. Enfin, nous vous parlerons des chiens détecteurs du cancer en compagnie d'Isabelle Fromentin, qui est à l'initiative d'un programme de détection du cancer du sein à l'Institut Curie. Et vous verrez que les chiens peuvent aussi être utilisés dans d'autres formes de cancer. Merci à vous d'écouter Vos Animaux, 0826 300 300. On vous attend au standard.
Sud Radio, Vos Animaux et vous.
Dans Vos Animaux et vous, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Laurence Hardy. Vous êtes éleveuse de Setter Gordon. Bonjour Marie-Laurence.
Bonjour Natacha.
Vous êtes aussi la vice-présidente du club de race du Setter Gordon. Et vous êtes venue, je le disais, en compagnie de Pin-Up. Elle est craquante, elle a 9 semaines, c'est
9
bien
semaines,
ça ?
9 semaines, oui absolument.
Elle est trop mignonne, pas trop perturbée finalement non. Par sa présence ici dans notre studio ?
Non. Pas du tout.
Je vous invite d'ailleurs à nous suivre sur notre Facebook, le Facebook de Sud Radio. Vous pourrez voir cette petite pin-up qui est blottie dans les bras de sa maîtresse. Le Setter Gordon, c'est un chien qu'on connaît assez bien. On connaît en fait finalement un peu toutes les familles de setter. Il y a le setter irlandais, le setter anglais. Le Gordon, qu'est-ce qu'il a de différent par rapport à ses autres cousins setter?
Alors en dehors de la couleur de robe, qui les différencie tous les trois, puisque l'Irlandais est parfaitement rouge, uniformément, oui. Ou rouge et blanc.
Oui.
Et l'anglais décliné dans différentes couleurs. Le Gordon est essentiellement noir et feu.
Noir et feu, avec parfois des petites taches quand même, ou pas du tout?
Alors, pas de taches du tout, en dehors d'une tolérance en poitrine.
D'accord, une petite tache voilà, blanche en poitrine.
Ce qui est le cas de Pin-Up.
C'est sa petite coquetterie à elle. Le Setter Gordon est bien sûr un chien de chasse.
Oui.
C'est un chien de chasse qui a quelle spécificité dans la chasse, même si ce n'est pas la vocation de cette émission de parler de chasse?
Alors, c'est un chien de chasse, un chien d'arrêt.
Oui.
Un chien d'arrêt britannique et qui a pour vocation d'arrêter le gibier, d'arrêter les oiseaux particulièrement, puisqu'il est, il est plus facile de le créancer sur ce type de gibier.
D'accord. C'est un chien qui, naturellement, a ses instincts de chasseur. Si on veut le prendre comme chien de compagnie, est-ce que dès que la porte est ouverte, il se sauve et il part chasser tout seul?
Non, je ne crois pas.
Non.
Je ne crois pas.
Ça fait des années que vous élevez des Setter Gordon.
J'ai des Setter Gordon depuis 30 ans. Effectivement, ils ont naturellement cette vocation.
Oui. Non.
Mais ils restent, malgré tout, d'excellents chiens de compagnie et d'excellents chiens de famille, adorables avec les enfants. Enfin, je dirais que leur seul défaut, ça va faire sourire, mais leur seul défaut, c'est d'être très pot de colle.
D'accord. C'est vrai qu'on le voit avec Pin-Up. Mais bon, s'il y a que ça comme défaut, ouais, c'est pas un gros problème.
Du
non,
tout.
On est ravis d'ailleurs. En termes de tempérament, c'est un chien qui nécessite d'avoir beaucoup d'activité ou au contraire, il est plutôt tranquille? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il soit heureux dans sa vie?
Il lui faut de l'activité. Ça reste quand même un chien de moyenne-grande taille qui a besoin d'activité, qui a besoin de présence aussi. Alors, ce qu'il faut, c'est impérativement pas forcément un jardin, parce que...
Ah oui ?
Non.
Même pour un chien de chasse, on n'a pas forcément besoin d'un jardin. Les setter Gordon peuvent vivre en appartement.
Si on lui accorde du temps, oui.
D'accord.
Je pense qu'il vaut mieux un chien heureux en appartement avec des promenades régulières, aller se courir, je sais pas, dans des parcs, dans des bois, qu'un chien qui serait
tout seul,
cantonné,
livré à lui-même
dans un jardin.
Bien sûr. Quand vous dites qu'il faut lui accorder du temps, parce que c'est important, je crois, de le préciser pour nos auditeurs, ça veut dire quoi, accorder du temps à son chien ? Est-ce que c'est juste la petite promenade le matin et la petite promenade le soir quand on rentre du boulot, ou est-ce que c'est quand même plus de temps que ça ?
Bah, c'est ça, bien sûr.
Ça, c'est le minimum.
Ça, c'est le minimum.
Mais ça suffit pas.
C'est le minimum syndical. Non, ça suffit pas du tout. Mais ça n'est pas, encore une fois, ça n'est pas spécifique à cette race-ci.
Oui.
C'est valable pour bon nombre de chiens. Accorder du temps à son chien, c'est le faire participer à la vie, à la vie de tous les jours, à la vie de famille, à le promener effectivement sur ses deux plages horaires, mais de s'en occuper dans la journée, c'est jouer avec lui, c'est, je ne sais pas, l'emmener...
Qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui viennent prendre un chiot chez vous, que vous ne remettez bien sûr jamais avant l'âge de 2 mois ?
Non, jamais.
Qu'est-ce que vous leur conseillez pour installer le chiot à la maison, créer du lien avec le chiot qu'ils ne connaissent pas ? Ils sont certainement venus le voir avant, une fois ou deux, mais forcément, c'est un moment où il faut se découvrir.
Moi, je suis, je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là, mais je suis extrêmement exigeante avec les familles adoptantes.
Oui.
Je veux que le chiot parte vraiment pour une vie de famille, avec des vacances, avec tout un panel de d'obligations.
Comment vous faites d'ailleurs ? Vous posez un tas de questions aux gens ?
Ah oui. Mais un tas de questions.
Oui.
Ils
le prennent bien.
Terrible. Oui. Et je pose un tas de questions et puis après, j'écoute aussi. C'est assez facile, en fait, de cerner les gens. Par exemple, sur mes chiens, moi, je ne veux pas d'un chien qui partirait pour vivre dans un chenil.
D'accord.
Par exemple. Mmh. Voilà. Ou dans un garage. C'est une des exigences que je peux avoir.
D'accord. Ça se comprend, Mais est-ce que effectivement vous élevez vos chiens chez vous ?
Oui, j'élève
mes
chiens à la maison avec des. Je m'en occupe beaucoup.
Oui.
Ils sont
c'est
beaucoup
manipulés.
C'est
important ça aussi d'ailleurs quand on prend un chiot chez un éleveur, d'essayer de voir dans quel contexte l'éleveur élève son chiot.
C'est important.
C'est important pour l'avenir du chiot.
Oui.
Pour
oui.
Avoir un chiot qui soit bien dans sa tête ?
Absolument. Bah, pour avoir un petit chien comme ça.
Oui.
Dont c'est le vraiment...
Juste pour vous expliquer, vous qui nous écoutez et qui ne nous regardez pas en Facebook Live, Pin-Up, elle est tout simplement installée tranquillement, la tête posée sur la table du studio. Elle a les yeux fermés, elle dort. Ne dormez pas, vous. Écoutez-nous. Écoutez nos bons conseils, les conseils de Marie-Laurence Hardy, qui est éleveuse de Setter Gordon. Donc, vous posez plein de questions aux gens. Vous leur demandez une certaine forme d'engagement vis-à-vis du chien. Vous leur expliquez également ce que ça représente en termes de responsabilité.
Oui. En termes de responsabilité, c'est quelque chose de...
Qu'est-ce que vous leur dites sur ce point ?
Rien de très, très précis, mais... je crois que un chien, c'est pas seulement un petit chien de 9 semaines... qui évidemment fait craquer
ça, c'est sûr.
Tout le monde. C'est aussi un chien qui, quand elle sera adulte, fera 25 kilos, qui prend de la place dans la voiture, qui pendant cette première année...
Va faire quelques dégâts.
Un petit peu. Alors j'ai un discours qui est de dire, et ça peut-être ça va choquer vos auditeurs, je ne sais pas, mais...
On parle vrai sur Sud Radio, donc ce n'est pas grave, allez-y.
C'est de les habituer, par exemple, à voyager en voiture dans une cage.
Mmh.
Avoir une cage...
Pour des questions de sécurité, tout simplement.
De sécurité, déjà. Parce que prendre un chien...
Sur le siège arrière, c'est extrêmement dangereux.
Oui, c'est extrêmement dangereux. Et à la maison aussi. Ça fait partie des petits conseils...
Quand vous dites à la maison, c'est-à-dire concrètement ?
C'est d'avoir une cage.
D'accord.
Alors on peut appeler ça petite maison, je sais pas. Oui. Enfin.
Et le chien fait quoi dans cette cage? C'est l'endroit où il dort ou c'est simplement c'est qu'on l'habitue à aller dans la cage?
On l'habitue à aller dans la cage comme dans un lieu refuge.
D'accord.
Parce que en fait, dans la vie de tous les jours, il y a plein d'endroits ou plein de moments dans la vie où on a envie, enfin où on veut être tranquille.
Bien sûr.
Où le chien n'a pas forcément sa place, oui. Mais si on lui apprend de tout petit à être dans cet univers, on n'est pas obligé d'avoir un mouchoir de poche en cage.
Oui, c'est ça, faut la cage adaptée au chien, évidemment.
Adaptée à la taille du chien.
Et on ne le laisse pas enfermer toute la journée dans la cage.
Bien sûr que non.
Faut quand même le préciser.
Non, du tout. C'est là, non, loin de là, mais mon idée.
Donc la cage, elle sert à quoi, alors, concrètement?
Alors la cage, elle sert à plein de choses. La cage, elle sert à se dire... Les enfants, par exemple, fêtent leur anniversaire, il y a 10 enfants à la maison, le chien n'a pas forcément envie de besoin d'être là. Le chien, je ne sais pas, enfin, il y a plein de moments dans la vie où on n'a pas forcément besoin d'avoir le chien dans ses pattes. Quoi.
D'accord, donc il faut lui apprendre tout petit et finalement ça devient pour lui une normalité.
Absolument.
Ce n'est pas la punition d'aller dans la cage, mais au contraire, c'est même un truc qui devient sympathique parce que c'est son petit endroit
c'est son refuge.
Où il est tranquille. Ouais. Restez avec nous, on continue bien sûr à parler de l'arrivée d'un chiot dans votre foyer et à écouter les bons conseils de Marie-Laurence Hardy, qui est éleveuse et vice-présidente du club de race du Setter Gordon.
Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio, vos animaux et vous.
Vous souhaitez faire l'acquisition d'un chiot ou vous venez d'acquérir un chiot et vous avez besoin de quelques conseils pour faire en sorte qu'il trouve tout naturellement sa place au sein de votre foyer. Eh bien, bienvenue dans vos animaux car c'est le premier thème de cette émission aujourd'hui. On en parle en compagnie de Marie-Laurence Hardy qui est éleveuse de Setter Gordon. La fixe de votre élevage, ça s'appelle
De
5 à 7. Vous êtes pleine de créativité, Marie-Laurence.
Absolument.
Et vous êtes également vice-présidente du club de race du Setter Gordon. On a un auditeur qui a composé le 0826 300 300. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour. Bonjour à vos auditeurs.
Merci à vous d'être présent sur Sud Radio aujourd'hui. On vous écoute Pierre.
Eh bien voilà, je pense faire l'acquisition d'un petit chien. J'ai des enfants en bas âge, je dirais entre 8 et 5 ans, j'en ai 3. Et je voulais savoir si il fallait adopter une attitude particulière avec un chiot dans ce genre de contexte familial, parce que je ne voudrais pas que le chien devienne un peu un jouet et qu'il finisse par devenir le maître de la maison. Donc j'aurais voulu quelques conseils à ce sujet.
Eh bien écoutez, déjà c'est bien de vous poser cette question. Marie-Laurence, j'imagine que vous êtes régulièrement confrontée à ce type de questionnement de la part de familles qui viennent vous voir, qui ont des enfants plutôt petits et qui essaient de voir comment on va concilier l'arrivée du chiot, qui est un truc formidable pour les enfants. Oui. Mais il faut quand même s'organiser un peu pour que ça se passe bien. Et pour le chien et pour les enfants.
Oui.
Quels sont les bons conseils à donner dans ce cas-là?
Moi, je crois qu'il y a il y a plein de races de chiens pour lesquelles c'est assez facile.
Oui.
D'autres qui sont peut-être dont l'éducation est peut-être un peu plus délicate. Et je pense que se faire aider par des gens compétents, comme
par des éducateurs,
l'école du chiot, y en a partout en France. Enfin bon, ça fait partie, ça en fait des, enfin c'est chouette quoi.
Ça permet finalement de poser tout de suite les bonnes bases dans la relation qu'on va avoir avec le chien. Alors moi j'ai envie de dire à Pierre que je trouve que votre idée de l'école du chiot est une très bonne idée, Marie-Laurence, un très bon conseil. Mais c'est le chiot qu'on emmène à l'école et puis c'est aussi toute la famille généralement.
Absolument.
Parce que les règles, c'est aux humains de les apprendre. Et le chien, lui, il va réceptionner les règles qu'on lui inculque.
Oui.
Il sera toujours prêt à les mettre en application si l'ensemble des membres de la famille sont en phase avec ces règles. Donc, par rapport à la question de Pierre, c'est un, on fait une éducation à son chien et pour éviter de ne pas la faire correctement, on fait appel à un professionnel.
On se fait aider, oui.
Deux, on ne laisse pas les enfants sans surveillance en compagnie du chien. Mais ça, j'imagine que Pierre, vous l'aviez déjà en tête.
Oui, tout à fait. Oui.
Et puis,
il y a quand même des règles de base, je pense.
Oui, il y a des moments clés dans la vie du chien, dans sa vie quotidienne. Il y a le moment des repas où il faut le laisser tranquille.
Et le sommeil.
et le sommeil. Voilà. Et c'est souvent à ce moment-là que les enfants se font mordre parce qu'ils viennent déranger le chien. Ce ne sont pas des signes d'agressivité de la part du chien, c'est juste qu'on est venu le perturber.
C'est réflexe, oui.
Donc c'est vraiment apprendre ces règles-là, Pierre, à vos enfants. Et puis en termes de couchage, on va être un peu pratique là, mais en termes de couchage, quels sont les conseils que l'on peut donner, Marie-Laurence ?
Mais pour répondre à Pierre, déjà aussi, c'est ne pas se tromper de race de chien.
Oui.
Et ne pas aller vers des races, je dirais, à la mode, forcément. Se renseigner auprès d'éleveurs compétents. Il y en a plein.
Bien sûr. Est-ce que, Pierre, vous avez déjà en tête une race qui vous tente ?
Oui, alors c'est vrai que le Labrador a toujours été une race qui m'attire, déjà. Et puis, j'en ai entendu aussi beaucoup de bien comme étant des chiens très sociables, même si c'est il paraît que ce sont les chiens qui mordent le plus, mais forcément...
Alors, il y en a beaucoup aussi, voilà, exactement. Voilà. Donc, c'est en proportion du nombre de labradors qui sont présents dans les foyers. Moi, je vais vous donner un conseil. C'est finalement... Alors, les labradors sont des chiens de famille absolument formidables. Il n'y a rien à leur reprocher. Mais le labrador, comme beaucoup de chiens qui ont cette tête hyper gentille, des chiens un peu placides, comme vos Setter Gordon, Marie-Laurence, on se dit, finalement, on n'a pas besoin de les éduquer. Et c'est là qu'on fait une erreur, c'est que vraiment, quelle que soit la race du chien, il faut mettre les bases de l'éducation. Donc Pierre, le Labrador, c'est un excellent chien de famille. Il pourra vous apporter que de la satisfaction, mais il faut vraiment passer par la case d'éducation et bien choisir son élevage. Marie-Laurence, comment on choisit bien son élevage ? Parce que c'est souvent une question que les auditeurs se posent et nous posent.
Alors, on choisit bien. Alors déjà, on va vraiment vers des éleveurs.
Oui. Quand vous dites vraiment des éleveurs, c'est-à-dire
On ne va pas en animalerie.
Oui, d'accord.
Où on peut trouver des chiens d'élevage, d'accord. Mais on va vraiment vers des personnes
professionnels.
Physiques, voilà. Chaque race est représentée par un club en France.
Tout à fait.
Qui ont tous des références et une liste d'éleveurs compétents. De gens qui sont sérieux, qui travaillent bien, dont les chiens ont, différentes raisons, ont été testés pour diverses maladies. On se tourne vers ces gens-là, qui seront, sinon pas de chiots, ce qui est mon cas, parce que je lève peu, qui seront vous aider dans vos recherches.
D'accord. Et puis effectivement, vous parliez des maladies en fonction des races. Hein. Il y a des maladies quand même sur lesquelles il faut faire des focus. Pour le Labrador, il y a par exemple les problèmes de dysplasie, ce qui est vrai chez tous les grands chiens. Donc voilà, Pierre, renseignez-vous. Vous pouvez aller sur le site de la Société Centrale Canine qui va référencer en fait les différents clubs de races. Oui. Et derrière, ces clubs de races référencent les éleveurs. Et appelez plusieurs éleveurs, posez plein de questions. Et c'est comme ça que vous allez vous faire votre opinion.
D'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie en tout cas.
Vous nous tiendrez au courant, vous nous raconterez comment ça se passe.
Avec plaisir, vraiment avec plaisir. Merci en tout cas.
Merci à vous pour votre appel et on embrasse toute votre petite famille. Merci Pierre.
Merci, c'est très gentil, au revoir.
On repart au standard de Sud Radio puisque nous avons un deuxième auditeur, je crois qu'elle s'appelle Diane, qui a cherché à nous joindre. Bonjour Diane.
Oui, bonjour tout le monde.
Bonjour Diane, vous avez un bel accent, vous appelez du sud de la France.
Tout à fait.
Racontez-nous, Diane.
Eh bien, on a pris un malinois dans un semi-élevage, quoi.
Qu'est-ce que vous appelez un semi-élevage ?
C'est le père, il est lofté, mais la maman ne l'est pas.
D'accord. Donc, quand vous dites lofté, c'est donc qu'en fait, il a des origines reconnues. Je traduis pour nos auditeurs qui sont moins calés que vous.
Voilà. Et la maman, non. Donc, on l'a payé moins cher puisque le chien
n'a pas de papier, doit faire ça.
Voilà. C'est pour ça que je dis un semi parce qu'ils ne font pas de l'élevage, voilà. Et donc, nous, on l'a eu pour un Noël. On l'a eu pour le 25 décembre. Il est arrivé à la maison le 25 décembre. Et mon petit-fils, il est né la même année, au mois de mars. Donc, quand il est arrivé, mon petit-fils, il avait 8 mois.
D'accord.
À peu près, neuf mois il avait. Et donc, ils se sont élevés ensemble.
Oui.
On l'a amené au dressage, ils se sont élevés ensemble. Et ma malinoise, c'est une femelle, elle ne le quitte pas. Mais elles ne le quittent pas,
c'est vrai, pas du tout.
Ah, ouais. Comme ils grandissent ensemble, comme se voient beaucoup, eh ben, elles ne le quittent pas. Et puis, une anecdote, pourtant, on l'a dressé, oui, pour le combat et tout ça, mais pas pour, mon petit-fils, on est en un grand terrain. Il y a eu un trou, qui font des vidanges. Le petit, il est tombé dedans.
D'accord.
Et nous, on l'a pas vu. Le chien, comme il ne fait que de le suivre, il était à côté de lui. Et quand elle a vu que mon mari, qu'il était sur les machines de l'autre côté, qu'il ne le voyait pas, elle faisait la navette entre mon mari et le petit. Pour prévenir mon mari, pour montrer qu'il venait le chercher parce qu'il était tombé. Oh, il n'a pas eu peur, le petit, parce qu'il était là, il a le regardé.
D'accord.
Et mon mari l'a levé. Et c'est grâce à la chaîne qu'on a vu que le petit, il était là. Voilà.
Et pour dire. C'est un beau témoignage d'une belle relation fusionnelle entre un chien et un jeune enfant.
Voilà.
Un petit conseil quand même, Diane, même si cette relation semble absolument formidable, vu ce que vous nous décrivez, faites quand même attention parce que les enfants en bas âge sont quand même les premières victimes des morsures de chiens. Et le chien qui mord, c'est généralement le chien de la famille, le chien de la maison, pas le chien qu'on croise dans la rue. Donc vraiment, soyez vigilante parce que ça peut traumatiser à vie un enfant. Et c'est vrai que quand ils sont petits, ils sont un peu sans limite avec les chiens. Ils ne se rendent pas forcément compte. Hein.
Voilà. Ma chienne a fait un chien bâtard, hein,
oui.
Et on l'appelle Tim, qui est né il n'y a pas très très longtemps. Et par contre, lui, c'est complètement différent. Il suit les enfants, il est très doux, mais il fait pas pareil. Il fait pas pareil du tout, pas du tout pareil.
Parce que chaque chien a finalement son tempérament, c'est comme nous, hein, on a tous notre caractère, ils sont exactement pareils. Merci pour votre appel, merci pour ce très joli témoignage, Diane. On vous souhaite un excellent week-end, on vous embrasse.
Merci, au revoir.
Au revoir, Diane. Un dernier conseil avant de se quitter, même si l'émission est loin d'être terminée, Marie-Laurence Hardy. Donc là, on entend des témoignages divers et variés sur cette relation importante avec les enfants, notamment des familles. Choisir la race du chien, c'est important, mais quelles questions doit-on se poser pour choisir la bonne race ?
Choisir la bonne race, c'est d'abord se renseigner sur... Savoir ce qu'on veut faire de son chien.
D'accord. C'est pas les critères physiques. Parce que souvent, d'accord. Souvent, on peut avoir un coup de cœur en se disant « Ah ben, moi, j'adore les Setter Gordon » parce qu'ils sont très beaux, etc. Non, ça ne suffit pas.
Non, ça ne suffit pas, parce que le Setter Gordon, il est très beau, mais c'est encore une fois un grand chien, c'est un chien qui prend de la place, c'est un chien qui a besoin de plein de choses, d'activités. C'est pas vraiment l'exemple, mais...
Oui, parce que Pin-Up, elle dort sur la table.
Mais elle restera pas... Enfin, on l'a vu tout à l'heure, elle est arrivée ici, c'est un petit chien qui est plein de vie. Et donc, se poser les bonnes questions, c'est se dire, est-ce que j'aurai du temps à accorder à ce chien ? Mm-hmm. Est-ce que j'ai trois enfants, qui était le cas de Pierre tout à l'heure, j'ai trois enfants, plus un chien de cette taille-ci.
Est-ce que je vais m'en sortir ?
Est-ce que je vais m'en sortir ? Je vais être obligée de changer de voiture.
Il faut penser à tout ça. Toutes les contingences, logistiques.
Oui.
Il y a le budget aussi
qu'il faut consacrer
au-delà de l'achat, l'entretien, les frais vétérinaires.
Tout à fait.
Le temps, bien sûr, dont on dispose.
Oui.
Et on ne se laisse pas embarquer ni par le coup de cœur sur un chiot, parce qu'on a tous des coups de cœur sur des chiots, ni sur un coup de cœur spécifique à une race, sans s'être renseigné sur le tempérament de la race et avoir pris le temps de choisir son éleveur.
Oui. Et un chien, c'est 15 ans de vie.
C'est vrai, 15 ans de vie, 15 ans de bonheur. Voilà, j'espère qu'avec tous ces bons conseils, vous ferez le bon choix et surtout, vous trouverez vraiment le chien qui vous correspond le plus. Et puis, n'oubliez pas tous ceux qui sont en refuge et qui attendent aussi des familles. Il n'y a pas que les chiens de race, bien évidemment. On marque à nouveau une petite pause et on se retrouve dans quelques minutes pour parler des hirondelles.
Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Et nous poursuivons notre émission en ce beau samedi matin ensoleillé dans notre séquence à l'état sauvage. Nous allons mettre un coup de projecteur sur les hirondelles. Elles se rassemblent en ce moment sur les fils électriques pour préparer leur grand départ vers des contrées plus chaudes. Mais reviendront-elles au printemps ? On en parle en compagnie d'un spécialiste, car les hirondelles se font de plus en plus rares. Et puis nous mettrons à l'honneur les chiens détecteurs du cancer, ou plutôt même des cancers, cancer du sein, mais pas seulement. Mais pour l'heure, c'est notre séquence Question Veto.
Sud Radio, vos animaux. Question Veto.
Et c'est Bénédicte qui est en ligne, qui a composé le 0826 300 300 et qui voulait me poser une question. Bonjour Bénédicte.
Oui, bonjour.
Vous avez un problème avec un chat turbulent, si j'ai bien compris.
Oui, j'ai un chat qui est relativement féroce.
Ah, et féroce, en fait, carrément.
Oui. Et donc, quand on va chez le vétérinaire et qu'il nous prescrit un traitement, on ne peut absolument pas le lui donner, notamment des gouttes dans les yeux.
Ouais.
C'est pas possible. Dès qu'on essaye de l'approcher ou de l'attraper, elle nous attaque sauvagement et donc on peut pas.
D'accord. Et quel âge a-t-elle ?
Alors, elle a maintenant, je crois, 14 ans, mais elle a toujours été comme ça.
Elle a toujours été comme ça. Elle s'appelle comment, ouais, votre minette de 14 ans ?
Sushi.
Sushi.
Oui.
D'accord. Je comprends que ça vous pose un problème. Vous savez d'où elle vient ? Est-ce que vous l'avez récupérée dans la rue ? Est-ce qu'elle est arrivée toute seule ? Ou est-ce que c'est un chat de race, d'élevage ?
Alors, c'est pas du tout un chat de race ni d'élevage. En fait, c'est un chat qui venait d'une portée d'une de mes voisines qui elle, vivait entourée de chats,
oui,
et avait également deux Rottweilers, me semble-t-il.
D'accord.
Oui, il y avait beaucoup d'animaux chez elle, enfin, bon, chats et chiens, mais ils étaient nombreux. Je pense qu'il y a eu d'ailleurs des liens. Je pense que mon chat provient probablement de chats qui étaient proches en parenté, on va dire.
D'accord. C'est une petite chatte que vous avez donc depuis le début, c'est-à-dire vous l'avez récupérée chaton ou est-ce que vous l'avez récupérée un petit peu sur le tard ?
Non, on l'a récupérée chaton.
Alors, vu ce que vous me dites, j'ai l'impression que le problème dure quand même depuis très longtemps. Ça va être compliqué de la faire changer radicalement de comportement. Ça ne va pas devenir un petit agneau tout doux à qui vous allez pouvoir facilement donner des médicaments du jour au lendemain. J'aimerais bien avoir une baguette magique.
Parce qu'avant, elle nous attaquait, donc bon.
D'accord. Déjà, elle ne vous attaque plus.
Non, elle n'attaque plus.
Bon. Moi, ce que je peux vous conseiller, Bénédicte, même si je n'ai pas de solution miracle à vous proposer, c'est vraiment d'user de toute la patience possible. Et vu ce que vous m'expliquez, je pense que c'est le cas. Mais il faut vraiment être toujours dans des actes de patience avec elle. Parce que, elle a un comportement que vous vous décrivez comme féroce, mais qui est certainement lié à des peurs. Et donc, si on la brutalise, si on la force à faire quelque chose, ça ne fait que renforcer finalement le comportement féroce que vous décrivez et que vous aimeriez voir disparaître ou en tout cas un petit peu atténuer. Donc, il faut vraiment y aller en douceur, tout tranquillement. Ce que vous pouvez essayer de faire, parce que j'ai cru comprendre qu'elle était difficile à emmener chez le vétérinaire, c'est de faire en sorte, d'ailleurs c'est un peu ce que nous disait tout à l'heure Marie-Laurence pour les chiens, c'est d'avoir une caisse de transport qui soit pour elle un lieu agréable, un lieu dans lequel vous l'habituez à rentrer sans aller systématiquement chez le vétérinaire. C'est-à-dire qu'elle ait son petit endroit à elle où vous lui donnez rendez-vous plusieurs fois dans la journée avec des choses qui vont l'attirer. Pas forcément les croquettes qu'elle a à disposition pour ses repas, mais des choses qui lui font plaisir, des petites gourmandises ou un jouet qui va lui plaire. Et elle aura comme ça son endroit refuge. Et au moment où vous devrez l'emmener chez le vétérinaire, eh bien vous savez que vous pourrez la faire rentrer plus facilement dans la caisse pour l'emmener chez le vétérinaire. Ça, c'est le premier point.
D'accord, c'est judicieux.
Ensuite, en ce qui concerne la prise de médicaments. Alors avec les chats, c'est toujours un peu compliqué la prise de médicaments. Alors il y a des bonnes pattes hein, à qui on peut tout faire. Mais ceux qui ne veulent pas prendre les médicaments, c'est souvent un combat. C'est un vrai problème parce qu'on ne peut pas se passer de leur donner certaines fois des médicaments. Là, j'ai cru comprendre qu'elle avait des gouttes dans les yeux de manière régulière ou est-ce que c'est occasionnel ?
Ben non, elle a un œil qui coule maintenant depuis plusieurs années, puisqu'on n'a jamais pu lui mettre ses gouttes.
Oui.
Et donc, ça n'a pas l'air de la déranger beaucoup. Mais on ne peut pas du tout l'attraper, on ne peut pas lui prendre la tête, on ne peut pas...
D'accord.
Elle se débat et elle griffe. Voilà.
Et est-ce qu'elle vient vous voir parfois ? Est-ce qu'il y a des moments de câlin ?
Il lui arrive de monter sur le dos d'un ou de mes fils quand ils sont allongés.
D'accord.
Mais elle fait vraiment ce qu'elle veut, quoi. C'est elle qui décide, voilà.
Ben, il va falloir partir du principe qu'elle va continuer. Parce que je crains qu'on ne puisse pas faire davantage de choses. C'est vraiment la patience. Pour la sécurité, avoir cette caisse de transport que vous utilisez régulièrement, enfin, où vous l'emmenez régulièrement,
oui,
pour l'habituer positivement. Et puis pour le reste, bah, faut lui fiche la paix, lui mettre à disposition tout ce dont elle a besoin et la laisser vivre sa vie, parce que vous n'allez pas la changer à 14 ans.
C'est clair.
Pour reprendre une expression animalière d'une amie que j'aime beaucoup, elle dit toujours « un léopard ne perd jamais ses taches ». Et bien voilà, votre chat Sushi ne va pas changer de comportement aujourd'hui. Merci Bénédicte pour merci votre question. J'aurais aimé vous trouver des solutions miracles, mais je n'en ai pas. Merci en tout cas.
Quand même le coup de la boîte, c'est très intéressant quand même.
Merci à vous. Allez, on va maintenant parler merci des beaucoup. Hirondelles. Hein.
Sud Radio, vos animaux à l'état sauvage.
Et pour parler des hirondelles, j'ai le plaisir de retrouver un habitué de cette émission, c'est Pierre Rigaud, il est naturaliste. Bonjour Pierre.
Bonjour Natacha.
Alors les hirondelles, on les voit là en ce moment, elles se regroupent sur les fils électriques, c'est la préparation du grand départ.
C'est le grand départ, il y en a même qui sont déjà parties, voire qui sont déjà passées au-dessus de la France, celles qui nichent plus au nord et qui sont déjà en route vers l'Afrique, et puis celles qui nichent par chez nous commencent à partir, alors elles vont traîner un peu jusque pour certains début octobre, mais c'est le moment où en effet on va devoir se passer d'hirondelles pendant quelques mois.
Qu'est-ce qui fait qu'elles sentent que c'est le moment du départ en fait? Parce que la migration des oiseaux est un truc assez mystérieux.
Alors ça reste encore un petit peu mystérieux, bien qu'on sache dans les grandes lignes comment ça fonctionne, c'est inscrit dans leur gène. Globalement, elles savent qu'elles vont partir, elles savent qu'elles vont revenir, et elles le font toujours, mais elles partent en groupe. C'est-à-dire que les jeunes qui n'ont pas encore fait le déplacement jusqu'en Afrique, puisqu'ils sont nés en Europe, vont partir avec les autres hirondelles, avec leurs parents. Et lorsque c'est le moment de se rassembler, toutes savent que faut pas non plus traîner trop longtemps, parce que si elles restent passer l'hiver en France, c'est quasiment la mort assurée pour elles, puisque les hirondelles mangent des hirondelles. Oh là là, pardon, les hirondelles mangent des insectes en vol. Et c'est donc la raison pour laquelle elles ne peuvent pas rester en hiver par chez nous, parce qu'il n'y a plus rien à becter, si je peux dire, dans le ciel.
C'est une jolie expression, effectivement, pour les hirondelles. Donc c'est pour ça qu'elles se rassemblent. Donc elles font des vols groupés. Comment ça se passe, en fait hein?
Ouais, c'est ça. Elles volent plutôt groupées. Elles volent de jour. C'est une des particularités de la migration des hirondelles par rapport à d'autres petits passereaux. Tous les passereaux qu'on voit en journée, qui sont parfaitement diurnes le reste de l'année, par exemple les rouges-gorges, eh bien quand ils migrent, eux, c'est plutôt la nuit. Ils se repèrent avec les étoiles notamment. Les hirondelles, c'est pas le cas. Elles migrent essentiellement en journée. Alors on peut les voir passer sur des hauteurs quelques petites centaines de mètres de haut, voire beaucoup moins quand c'est des cols en montagne. Et elles volent à une petite cinquantaine de kilomètres heure en groupe un petit peu lâche, un petit peu dispersé, mais quand même en se gardant à vue les unes avec les autres. Et ça leur permet comme ça de garder la cohésion pour arriver à destination dans quelques semaines. C'est assez rapide finalement. Elles ont quand même à peu près 5000 kilomètres à parcourir pour aller jusqu'en Afrique de l'Ouest.
Et est-ce qu'au printemps l'année prochaine, donc quand elles vont revenir, en tout cas on espère les revoir, parce qu'on en parlera tout à l'heure en votre compagnie, il y en a malheureusement de moins en moins, mais est-ce qu'au printemps elles reviennent au même endroit? Est-ce qu'elles sont fidèles à leur nid, leur nichoir?
Très fidèles, les hirondelles reviennent généralement là où elles sont nées, et c'est pour ça que c'est très important que l'endroit où elles sont nées soit préservé. C'est assez magique quand même qu'elles puissent, après une si longue distance et sans GPS quand même, il faut bien rappeler, retrouver exactement l'endroit où elles sont nées. C'est un trajet qui est à la fois, elles cèdent des grandes données pour elles, la position du soleil, des choses à très grande échelle. Et puis après, elles ont leur mémoire visuelle des lieux, ce qui font qu'elles reconnaissent immédiatement là où elles sont nées pour y revenir au printemps. Ce sera au mois d'avril.
Il y a Fanny qui souhaitait réagir et qui a composé le 0826-300-300. Bonjour Fanny.
Bonjour Natacha. Bonjour Pierre.
On est ravis de vous avoir sur l'antenne de Sud Radio. Vous nous appelez d'où Fanny?
Je vous appelle d'un village pas très loin de Narbonne.
Très bien. Vous avez des hirondelles chez vous?
Alors moi j'ai des hirondelles au-dessus de ma boutique. J'ai une boutique dans un immeuble avec deux étages au-dessus.
Oui.
Et au ras des toits, il y a un nid d'hirondelles depuis plusieurs années. Le côté, c'est très agréable, moi j'adore.
Oui.
Il ne me viendrait pas à l'idée de faire partir le nid pour rien au monde. Par contre, le petit côté désagréable, c'est que ça salit beaucoup devant le pas de porte du magasin. Voilà, c'est la seule chose. Mais après, j'ai aussi une corbeille et une avancée à ma boutique, qui est une cordonnerie, et qui met en avant la vitrine. Et c'est ce qui protège quand même pas mal des
fientes des hirondelles.
Voilà, exactement, des hirondelles, oui, tout à fait.
Pierre... Et il y a quelque temps, comme il y avait beaucoup de petits, j'imagine, qui sont nés dans ce nid, on avait des petites plumes toute la journée qui volaient devant la boutique.
Bon, c'est bien, au moins vous avez la nature comme ça au sein de votre ville, de votre village. Pierre Rigaud, juste pour rebondir sur ce que nous dit Fanny. Alors, bon, on comprend que parfois ça peut être des nuisances, hein, les hirondelles, quand elles font leur déjection juste au-dessus de votre balcon ou de votre maison. Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Alors là, il s'agit probablement d'hirondelles de fenêtres sur les façades à l'extérieur, alors qu'ils nichent pas seulement sur les fenêtres, mais sur toutes sortes de façades. On peut éviter que les fientes atteignent l'endroit qu'on veut protéger en mettant un système, par exemple, de petites planchettes ou autres supports sous le nid. Alors attention, il faut pas que ça serve de marchepied pour les chats, bien sûr. Il faut que le nid reste inaccessible, mais on peut comme ça empêcher simplement que les fientes tombent. C'est un cas classique, malheureusement, les déjections sur les façades en termes de gêne, de nuisance, et c'est pour ça qu'hélas beaucoup de gens, ou même des collectivités éliminent les nids d'hirondelles.
Mais ça c'est interdit, Pierre, non ?
C'est interdit, il faut rappeler que les hirondelles bien sûr sont protégées, mais leurs nids aussi, et comme on le disait, elles ont besoin de retrouver au printemps, en revenant de migration, leur nid pour s'y installer à nouveau. Donc si on élimine tous les nids d'une façade, les hirondelles qui reviennent au printemps sont totalement perdues, donc c'est vraiment très important de conserver leur nid.
Eh bien, merci à Fanny d'abord pour son appel et puis merci à vous, Fanny, de conserver le nid de vos hirondelles. Je pense qu'au printemps, vous allez avoir une famille nombreuse.
Voilà, sûrement, oui.
Bon, merci pour votre appel. Pierre Rigaud, les scientifiques qui nous alertent régulièrement avec des rapports très circonstanciés se plaignent de la disparition des oiseaux. Les hirondelles sont directement impactées, elles aussi ?
Oui, et là, ça fait partie des oiseaux qui disparaissent de nos campagnes et même de nos villes depuis plusieurs dizaines d'années. C'est pas nouveau, mais la tendance continue. Il y a de moins en moins d'hirondelles. À peu près toutes les espèces d'hirondelles sont concernées. Les hirondelles de fenêtres dont on parlait, mais aussi les hirondelles de cheminée, qui s'appellent aussi les hirondelles rustiques, qui elles nichent plutôt à l'intérieur des bâtiments. Et essentiellement, ces hirondelles disparaissent à cause des pesticides, parce qu'elles se nourrissent d'insectes en vol. Donc forcément, moins d'insectes égale moins de nourriture pour elles. Elles disparaissent aussi alors à cause justement des réfections de façades et de la destruction de leur nid. Elles disparaissent à cause de l'agriculture intensive. Peut-être aussi avec des difficultés sur leur site d'hivernage en Afrique de l'Ouest, quand les conditions sont moins bonnes. Mais il semble que ce soit surtout au moment de leur reproduction en Europe que tous les facteurs s'accumulent contre elles, malheureusement.
Donc une fois de plus, les pesticides sont pointés du doigt parce qu'il y a des répercussions vraiment en chaîne, en cascade sur les différentes espèces végétales et animales avec, on voit au bout de la chaîne, la disparition comme des oiseaux aussi beaux et aimés, je pense qu'on peut le dire ainsi, les hirondelles.
Oui, et les hirondelles, c'est que la partie visible, mais tout le monde aime les hirondelles. Et finalement, on peut tous aider un petit peu les hirondelles, comme on le disait par exemple, en faisant attention à leur nid, mais c'est déjà une très belle chose de faire ça. Notamment, je vois des gens qui agissent auprès du syndic de l'immeuble ou de leur mairie pour qu'on fasse attention au nid, mais fondamentalement, il faudrait agir encore beaucoup plus fort
en limitant l'usage des pesticides.
C'est vraiment ça qui joue le plus, oui.
Message reçu, Pierre Rigaud. Merci infiniment de nous avoir éclairé sur la situation de ces hirondelles. Et puis quand on va regarder autour de vous, d'ailleurs ce week-end il va faire très beau, regardez-les sur les fils électriques et dites-vous qu'elles vont parcourir un long chemin, 5000 km vers l'Afrique. Ça fait rêver. Merci Pierre. On fait à nouveau une courte pause et on se retrouve juste après pour parler de ces chiens utilisés dans la détection de différentes formes de cancer.
Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Vos animaux sur Sud Radio, c'est votre histoire.
Et dans C'est votre histoire aujourd'hui, on va à nouveau mettre un coup de projecteur sur ces chiens qui sont utilisés pour la détection du cancer. Pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Fromentin. Bonjour Isabelle.
Bonjour Natacha.
Isabelle, vous travaillez à l'Institut Curie. Vous avez mis en place un programme absolument formidable qui s'appelle CADOG. Je vais peut-être vous laisser vous-même présenter ce programme.
Alors CADOG, maintenant, c'est une histoire un petit peu qui date d'il y a quelques années. Oui. Au départ, c'était juste l'idée, d'après des choses qu'on avait vues, lues, des personnes qu'on avait rencontrées sur la possibilité des chiens à reconnaître une personne malade et notamment quelqu'un qui a un cancer.
Donc, quand vous dites reconnaître, c'est-à-dire détecter par l'odorat. oui, la présence d'une tumeur du sein chez la femme.
Alors, c'est ça, mais au départ, c'était bien plus vague que ça. Hein. C'était vraiment des retours de personnes qui expliquaient que leur chien avait changé de comportement et qui avait été consulté et on aurait vu qu'elles avaient un cancer. Donc, on est vraiment parti d'une hypothèse. Et on en a fait, en effet, un programme de recherche sur le cancer du sein, en essayant de trouver un moyen qui soit pratique, parce qu'un outil de détection, il faut que ça soit pratique. Donc, on a décidé d'essayer de voir si le chien était capable de détecter un cancer du sein à partir de prélèvements de sueur. Mmh. En gros, c'est la femme qui va dormir avec une compresse posée sur le sein toute une nuit. Alors pourquoi toute une nuit ? Ben c'est tout simplement pour que la compresse ait le temps de s'imbiber de cette sueur et présenter ces compresses aux chiens qui, eux, vont nous dire, vont apprendre d'abord, puis après réussir à nous dire s'il y a cancer ou pas cancer.
Et le résultat, est-ce qu'il se trompe parfois ?
Alors, on va le savoir plus définitivement bientôt, puisqu'on démarre ce qu'on appelle l'étude clinique.
Mais dans les premières études que vous avez réalisées, parce que ça fait maintenant plusieurs années que vous avez mis en place tout ce protocole.
Alors, on a fait une preuve de concept, en effet, voir si ça marche. On a eu des résultats extrêmement encourageants, puisque les chiens, à leur premier passage devant des cônes où étaient disposées différentes compresses, réussissaient à trouver la compresse positive à leur premier passage dans plus de 90% des cas.
Ce qui est énorme.
Ce qui est énorme et ce qui a fait qu'on a eu envie de continuer.
Et je rappelle que donc c'est pas du tout farfelu tout ce que vous nous expliquez là, que vous travaillez au sein du fameux Institut Curie. Donc voilà, on est dans un cadre extrêmement sérieux, un cadre médical reconnu dans le monde entier.
Alors, c'est sérieux et là, je pense que dans 15 jours, 3 semaines, je me réjouis d'accueillir toutes les autres équipes qui, dans le monde, travaillent aussi sur la détection des cancers avec les chiens. Nous, on travaille sur le cancer du sein, mais il y en a qui travaillent sur la prostate, il y en a qui travaillent sur le poumon, sur le cancer du col de l'utérus. Et donc, on a décidé justement de se réunir parce que c'est des projets quand même, ça se fait pas comme ça. Faut être extrêmement rigoureux, faut que le chien soit dans un cadre bien défini avec un travail très répété et bien sûr, c'est pas nous qui le faisons mais des professionnels qui savent faire travailler ces chiens. Et on a eu envie d'échanger avec ces autres équipes pour voir si elles avaient parfois les mêmes soucis que nous, si on pouvait pas collaborer et encore améliorer ces techniques. Et vous voyez quand même, il y a 13 pays qui seront représentés à ce workshop.
Ça va se tenir à Paris, à la Défense, à votre initiative d'ailleurs. Oui. Et c'est la première fois que toutes ces équipes spécialisées du monde entier se réunissent pour parler justement de l'utilisation du chien pour la détection des cancers et non pas du cancer.
Voilà, des cancers. Oui, c'est la première fois et j'avoue qu'on a été surpris parce qu'on a un peu lancé cette idée en se disant ben voilà, on va contacter, donc on les a juste appelés, toutes les équipes qui avaient publié et on a eu un très bon retour et on est content d'être quasiment tous réunis pendant ces deux jours.
Mais pourquoi les chiens sont utilisés, Isabelle Fromentin, pour détecter les cancers ? Parce qu'on sait qu'on peut détecter les cancers autrement.
Alors on peut le détecter et les imageries sont là et je pense que tout le monde y a eu recours. Il y a différentes réponses et on va aussi en discuter pendant ce workshop qui réunit les équipes. On peut utiliser ces techniques en pré-test. Le chien, il va vous dire cancer, pas cancer. Enfin, ouais. Il va vous le montrer. D'accord. Alors, on peut imaginer que ça soit utile ici, si je prends l'exemple du cancer du sein, qui est celui que
je connais. Sur lequel vous travaillez.
Voilà, exactement. D'abord, il y a des femmes qui se plaignent un petit peu de ces examens, qui n'ont pas envie d'aller passer, qui ne trouvent pas le temps, ou alors pour lesquelles c'est difficile d'y accéder, parce oui. qu'elles sont dans un milieu rural.
Ou qui en ont peur aussi, peut-être.
Ou qui en ont peur. Donc là, on peut imaginer quelque chose de moins cher, et on espère de moins coûteux aussi.
Et donc, de plus accessible, de plus facile à mettre en œuvre.
Tout à fait. En gros, c'est des kits. On fonctionne déjà comme ça avec les volontaires de CADOG. On leur donne un kit où il y a les compresses, le savon et une enveloppe de retour.
Voilà, donc la patiente, elle reçoit ça chez elle. Elle fait ça tranquillement un soir. Elle dort avec sa compresse. Elle renvoie.
Exactement. Donc, une technique assez simple. Après, si c'est positif, évidemment... le médecin oriente vers des examens, d'imagerie, voire des biopsies, s'il y a quelque chose. Après, nous, tous nos projets de recherche sont aussi orientés vers, les pays à faible accès aux soins. Et là, on peut aussi imaginer dans ces pays où quelquefois il y a des appareils de mammographie, mais il va en avoir un ou deux pour une grande population. Oui. Et ben, ça peut être un pré-test qui permet après d'orienter et de filtrer les personnes qui doivent passer ces examens d'imagerie.
Ça veut dire qu'il faudrait être doté d'équipes cynophiles ou cynotechniques extrêmement nombreuses pour subvenir justement aux besoins.
Alors il y a différentes solutions. Soit vous pouvez tout à fait imaginer une énorme équipe. Comme les prélèvements sont envoyés, vous pouvez tout à fait les centraliser.
Oui.
Ça peut être une solution. L'autre solution, en effet, c'est d'avoir plusieurs équipes. Mais il ne faut pas oublier que les Cynos et ses équipes, il y en a beaucoup. Là, on va ouvrir Cadoc Brésil.
D'accord.
Donc, ils vont essayer de faire exactement dupliquer notre technique au Brésil. Et c'est très intéressant de voir si on a les mêmes résultats dans un environnement différent.
Mm-hmm.
D'accord. Ben, toute l'Amérique du Sud, ils ont beaucoup d'équipes Cynos pour la recherche de pétrole, de drogue, d'explosifs ou autres, ou alors tous les problèmes de tremblement de terre. C'est des pays où ils ont une culture Cyno extrêmement
quand
développée.
Quand on dit culture Cyno, peut-être pour traduire pour nos auditeurs, c'est une culture de l'utilisation du chien, et notamment là, on parle du flair du chien.
Exactement. Je m'excuse. Vous voyez, Natacha, au départ, je ne savais pas ce que c'était. Et maintenant, j'emploie mon terme.
Oui, oui, maintenant, vous êtes devenue une pro des chiens.
C'est ça.
En plus d'être une professionnelle du cancer et des recherches sur le cancer du sein. Isabelle Fromentin, merci beaucoup pour toutes ces explications. Et puis, bien sûr, on vous tiendra au courant, vous, auditeurs de Sud Radio, de ce grand rassemblement de toutes ces équipes du monde entier qui utilisent des chiens pour détecter les cancers du sein. Et puis, Isabelle, bravo encore pour Cadoc. Je sais, je vous le dis à chaque fois, mais on peut être que admiratif devant autant de détermination qui vous a permis aujourd'hui de rendre tout cela possible. Je vous embrasse tous,
merci.
Auditeurs de Sud Radio. On vous souhaite bien sûr un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Vos Animaux.